Et l'homme que je reçois en ce début de semaine est un chercheur d'exception. Il est neurobiologiste et il a reçu cette année un prix d'1,5 million de dollars pour ses recherches qui se situent à la frontière du développement des circuits neuronaux et du comportement. Son nom est Bassem Hassan et pour explorer les liens entre la personnalité et les circuits neuronaux, il utilise la mouche drosophile avec laquelle nous avons en commun 70% de patrimoine génétique. Quels sont les liens justement entre le cerveau et nos comportements? Question posée dans le dossier de l'émission dans un instant avec toutes vos questions. Justement, et vos témoignages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, la découverte d'un mécanisme permettant aux plantes de s'adapter aux inondations. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, les capacités de survie des plantes en fonction des quantités d'eau qu'elles reçoivent est encore très mal connue. Une équipe de chercheurs français vient de percer une part du mystère. On en parle dans un instant à la une.
Stéphanie Texier réalise cette émission qui a été préparée par François Mercier avec Mamoun Mebarek.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Bassem Hassan.
Bonjour Mathieu Vidard.
Est-ce qu'on peut dire d'une mouche qu'elle a des traits de caractère?
Bah écoutez, selon nos manies pour l'instant, oui, je dirais oui.
Quel type de traits de caractère?
Écoutez, la définition un peu des traits de caractère, c'est des réactions, des comportements qu'ils ont assez fixés à travers le temps dans un certain individu, mais qu'ils ont variables entre individus. Et donc, si on essaye de voir les comportements innés d'un mouche à travers le temps, on trouve qu'il y a certaines réactions, comportements qui sont fixes à travers le temps, mais qui sont pas ou presque jamais les mêmes entre, par exemple, 10 ou 15 mouches.
Donc, ouais.
Voilà.
Donc c'est intéressant pour étudier l'humain, et c'est ce qu'on va voir avec vous, hein, parce que justement, en travaillant sur le cerveau des mouches, on peut s'intéresser au comportement humain.
Ben, en principe, absolument.
Oui. Ouais. On en parle dans un instant avec vous, c'est le dossier de l'émission, et on étudiera également les mécanismes de certaines maladies, on parlera entre autres d'Alzheimer. Les questions des auditeurs, franceinter.fr. La part génétique de l'arrosage des plantes, à la une de la science aujourd'hui.
L'arrosage rétablit la différence de pression entre l'eau des racines, très légèrement négative, et celle de la plante entière. Dès lors, l'absorption se déclenche. La transpiration a lieu normalement, et la plante se porte au mieux. Le rôle des racines est donc capital.
Et on sait tous que trop arroser une plante ou trop souvent n'est pas bon du tout pour elle. Mais pourquoi? La réponse à cette question, eh bien, se trouve dans les racines. Et d'un point de vue moléculaire et génétique, elle est encore un grand mystère pour les scientifiques. Heureusement, nous avons Christophe Morel avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lever une partie de ce mystère. Vous êtes chercheur au laboratoire CNRS de biochimie et physiologie moléculaire des plantes à Montpellier. Et vous vous êtes intéressé au mécanisme de survie des plantes en cas d'inondation. Alors, une question simple pour commencer, Christophe Morel. Pourquoi est-ce que recevoir trop d'eau d'un coup est mauvais pour une plante?
Ben parce que pour la plante, c'est un grand stress. Les racines sont très actives dans le sol et pour ça, elles ont besoin de respirer. Et lorsqu'une plante est inondée, l'eau envahit toutes les cavités du sol et empêche l'oxygène d'arriver jusqu'au point des racines. Et les racines souffrent d'une carence en oxygène et c'est un stress très très important pour la plante.
Alors comment est-ce que vous avez fait pour étudier l'inondation? Vous avez noyé des plantes un peu comme tout le monde le fait chez soi?
Ben, disons que le programme de recherche qu'on a développé donc avec des collègues de l'INRA de Versailles, c'était plus généralement essayer de comprendre comment l'eau est absorbée par les racines. Donc ça va tout cadre tout à fait avec l'introduction que vous avez réalisée. Voilà, c'est vraiment un point très très important pour comprendre le statut hydrique des plantes. Et donc on a essayé de comprendre dans quelles conditions ces propriétés pouvaient varier. Et ça nous a amené à découvrir ce mécanisme où dans des conditions d'inondation, on voit qu'effectivement les plantes sont capables de moduler leur absorption d'eau racinaire.
Alors si on devait décrire un peu le mécanisme que vous avez découvert, comment on expliquerait cela?
Alors, je crois que la nouveauté, c'est, on savait, comme je l'ai dit, que les inondations provoquent un déficit d'oxygène au niveau des racines. Ce qu'on savait pas, c'est que la plante est capable d'intégrer d'autres éléments du sol, et en particulier la teneur en nutriments. Et là, on a découvert un mécanisme où la plante intègre les concentrations en potassium dans le sol et les concentrations en oxygène, et ce mécanisme moléculaire perçoit ces deux éléments pour déclencher la réaction de la plante, et notamment réguler le transport de l'eau dans la racine.
Mais alors comment est-ce qu'il prend? C'est une sorte de capteur moléculaire sur la plante justement, pour repérer les nutriments?
Alors, la manière dont la plante perçoit le potassium, là, reste encore inconnue, hein, je dois dire. Par contre, on sait comment elle perçoit l'oxygène, et le mécanisme qu'on a mis en évidence, c'est la manière dont le potassium agit sur cet interrupteur moléculaire qui était le percepteur d'oxygène, voilà. Donc, on a, au-dessus de cette perception d'oxygène, une sorte de contrôle par les nutriments du sol, et ça, je pense que c'est assez nouveau en termes moléculaires.
Ça veut dire que selon le sol dans lequel elle se trouve, elle va réagir différemment en cas d'inondation, tout simplement.
Alors voilà, bon, on sait que finalement les inondations peuvent par exemple provoquer un lessivage des sols, et la plante doit intégrer la capacité qu'elle va avoir dans ce sol à croître ultérieurement une fois que l'inondation sera passée. Et donc ça peut paraître assez finalement assez judicieux pour la plante, et ça on l'avait pas suspecté au départ, qu'elle intègre un petit peu cette concentration en nutriments pour déclencher une stratégie de croissance lors de la période de recouvrement après les inondations. Ça, c'est une manière pour la plante d'intégrer toutes de répondre de manière la plus pertinente possible à différents scénarios d'inondation dans les sols.
Incroyable.
Est-ce que ce que vous venez de découvrir peut servir aux agriculteurs en changeant leur méthode d'arrosage ou pour réagir en cas de trop forte pluie?
Alors peut-être ce mécanisme qui même était finalement pas suspecté par les physiologistes peut servir aux agronomes pour mettre un point d'insistance sur le fait de bien s'assurer que même en condition d'inondation, la nutrition minérale de la plante est correcte, et ce sera un élément qui favorisera le recouvrement de la plante après une submersion par exemple. Christophe... Donc ça c'est quelque chose d'assez pratique qui... Bon, bien sûr, devrait être exploré de manière plus spécifique dans des cas agronomiques.
Quelle plante vous étudiez en particulier, Christophe Morel? Parce que ce mécanisme-là que vous décrivez et que vous avez découvert, est-ce qu'il est là pour toutes les plantes et pour tous les types de racines possibles?
Alors, je dirais qu'on n'est pas allé jusque-là. Pour l'instant, on a travaillé sur Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames, qui est un petit peu l'équivalent de la drosophile dont on a parlé précédemment.
Ben voilà, d'ailleurs, notre invité Bassem Hassan opine du bonnet.
Voilà. On l'a fait pour des raisons d'efficacité, parce que c'est une plante qui pousse très vite, dont on connaît très bien la génétique. Il y a beaucoup de ressources. Et bon, ce travail a quand même pris 5 ans. S'il avait fallu le développer sur une espèce moins favorable, ça aurait pu nous prendre encore plus longtemps. Donc on a découvert ce mécanisme, on commence à regarder s'il existe effectivement dans d'autres espèces. On a commencé à regarder le riz, qui est une espèce qui subit des inondations.
Ah ben oui.
Mais finalement, dont les processus de perception de l'oxygène sont un petit peu particuliers. Et il semble que le mécanisme ne soit pas exactement présent chez le riz. Une piste intéressante sont bien sûr les autres céréales, le blé et le maïs, par exemple.
Est-ce que vous étudiez aussi le manque d'eau?
Alors, ce que j'ai dit, c'est que les thématiques que l'on développe pour nos recherches concernent d'une manière beaucoup plus générale l'absorption de l'eau par les racines. Et effectivement, le déficit hydrique est un contexte très très important. Et en utilisant les mêmes démarches, on a identifié un deuxième gène qui est encore en cours d'étude, qui lui intervient dans la réponse des plantes à la sécheresse. Donc c'est juste pour illustrer le fait que cette démarche est assez innovante et nous permet de toucher des mécanismes clés de la physiologie des plantes et de leur équilibre hydrique.
Oui, donc Christophe Morel, pour les plantes qui savent justement s'y prendre avec les inondations, il y a un mécanisme de survie qui est absolument essentiel par rapport à d'autres plantes justement qui n'auraient pas les mêmes réactions de stress hydrique.
Alors, je dirais que toutes les plantes ont des mécanismes de réponse aux inondations. Et la plante que l'on a utilisée est tout à fait dans la norme. Hein, c'est-à-dire que la carence en oxygène provoque des réactions métaboliques qu'on dit anaérobiques, donc on trouve chez d'autres organismes. Donc ça, c'est tout à fait classique. Certaines plantes, dans des milieux très fréquemment inondés, ont des propriétés très particulières qui peuvent être étudiées. Ce qui est assez remarquable, c'est que finalement, on a observé, et ça a été la base de notre découverte, que ce mécanisme est un petit peu variable entre les différentes variétés d'Arabidopsis qu'on peut trouver de par le monde, ce qui veut dire que ce mécanisme est finement ajusté en fonction des environnements géographiques. Donc ça, c'est un élément d'adaptation des plantes à différents habitats.
Vous avez également parlé de la reprise de la croissance après l'inondation. Est-ce qu'on pourrait imaginer se servir de ce système de stress pour favoriser la croissance de certaines plantes?
Comme je l'ai dit, l'inondation et le manque d'oxygène est quand même un stress métabolique assez sévère. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment une manière de stimuler efficacement la plante. On peut, on le sait, provoquer des petits stress nutritionnels ou hydriques qui peuvent, par exemple, améliorer les qualités des productions agricoles. Là, en l'occurrence, je pense que ce type de stress est un peu trop sévère et la plante, comme je l'ai dit, a du mal à le gérer. Je crois qu'il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Ouais.
Un petit conseil, Christophe Morel, pour l'arrosage de nos plantes avant de partir, puisqu'on vous tient.
Je dirais, et ça, vous l'avez dit en introduction, finalement, les plantes supportent plus facilement un manque d'eau qu'un excès d'eau. Hein. Un excès d'eau, c'est potentiellement la mort des racines, le pourrissement des racines et la mort de la plante.
Eh bien voilà, et ça n'est pas rien. Voilà, et c'est de la part d'un chercheur qui vient de publier dans la revue Cell, quand même, le petit conseil jardinage de la journée. Merci beaucoup Christophe Morel. Merci d'être venu à la Une de la Science. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, d'anciennes civilisations du Pérou utilisaient déjà la couleur indigo pour teindre leur tissu il y a 6000 ans. Un chiffon retrouvé sous une colline de la côte nord du Pérou nous apprend que l'indigo, la teinture la plus utilisée au monde, a été justement utilisée par les Péruviens environ 1500 ans avant les Égyptiens de la 5e dynastie. Très probablement tiré de l'indigofera, une des plantes sud-américaines. Il n'est pas impossible que ce colorant ait été utilisé bien avant encore dans d'autres parties du monde, mais il est très rare de trouver des tissus où la couleur ait été maintenue à travers les âges. Un généticien russe a reproduit le processus de domestication des chiens avec des renards. Il s'appelle Dimitri Baleyev. Il a commencé son programme d'élevage à la fin des années 50. Des renards prélevés dans la nature en fonction de leur comportement en présence d'humains. Et puis, ces renards ont été élevés dans son laboratoire de Novosibirsk. Les petits, les plus tolérants à la présence des hommes, ont été maintenus en captivité, les autres relâchés. Et ce processus de sélection a été répété pendant 50 ans. Il a totalement changé ce groupe de renards. Ils sont devenus amicaux et ils présentent aujourd'hui un comportement presque identique à ceux des chiens domestiques. Mais ça n'est pas tout. Ils ont également changé physiquement. Leurs oreilles sont devenues pendantes, leurs pattes et leurs museaux sont devenus plus courts et leurs têtes plus larges. Des changements similaires à ceux qui différencient donc les premiers chiens domestiques des loups sauvages. Et puis le plus ancien hameçon découvert à Okinawa. Les plus anciens pêcheurs connus dans le monde vivaient sur la petite île d'Okinawa au Japon il y a près de 30 000 ans. Bien sûr, cette île, les archéologues ont découvert des hameçons dans une grotte calcaire à l'intérieur de l'île datant d'il y a près de 23 000 ans. Ils sont tous taillés dans des coquillages, ont été trouvés dans la grotte Sakitari, occupée de façon saisonnière par les pêcheurs. Ces résultats appuient l'idée que ces premiers hommes modernes étaient plus avancés avec la technologie maritime qu'on ne le pensait et qu'ils étaient capables de prospérer sur de petites îles isolées géographiquement. Allez, un neurobiologiste, l'invité de la tête au carré dans un instant, Bassem Hassan.
Said you never know. While I try my best, hey, to cover our eyes. It's a common way to blame and hide the truth. I know that some will say it matters a little bit. Oh, but come on and mean it to me. I need it so bad. Say it now, say it again. I know it's
some will say it matters a little, babe. Oh, but come on and mean it to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.
Nathaniel Ratliff sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le développement du cerveau, le comportement, les traits de caractère, dossier donc cet après-midi de La Tête au Carré avec vous, Bassem Hassan. Vous êtes neurobiologiste, chercheur à l'ICEM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et vous êtes chef de l'équipe développement du cerveau. Vous êtes également directeur de recherche à l'INSERM, et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions pour dialoguer ensemble sur franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Bassem Hassan, la Fondation Paul Allen, qui finance des projets scientifiques, vous a décerné le prix de chercheur d'exception pour vos travaux, donc sur la frontière du développement des circuits neuronaux et du comportement. Vous avez reçu un joli petit chèque d'1,5 million de dollars sur 3 ans. Et vous êtes le seul lauréat de ce prix d'un institut issu d'un institut européen. C'est assez exceptionnel pour vous et votre équipe, j'imagine.
Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Ça nous permet de faire plein de choses.
Oui, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent alors, du coup?
D'abord de engager des gens, des jeunes étudiants, post-doc, techniciens pour dévoiler les mystères du cerveau de drosophile.
Ouais. Il y a encore beaucoup de mystères à percer dans ce domaine.
Bah, absolument, absolument. On est en train de scratcher le surface, comme on dit.
C'est-à-dire
scratcher le surface, c'est-à-dire
de gratter dessus un petit peu.
De gratter de surface hein. Que ce qu'on comprend sur le cerveau. Et j'ai toujours l'impression que plus qu'on fait, plus que le mystère
s'agrandit.
C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment.
Alors c'est un prix qui récompense les recherches et aussi la créativité d'un scientifique. Ça, c'est une notion importante justement quand on fait de la recherche, être créatif.
Ben, je pense que la créativité, ou peut-être plus précisément l'imagination, la capacité d'imaginer ce qui est pas toujours vrai ou connu, c'est peut-être la chose la plus importante dans la recherche scientifique, à mon avis.
C'est la chose la plus importante, pourquoi ? Pour faire des découvertes importantes, justement ?
Voilà. Ouais. Donc, moi, je dis toujours que si on peut l'imaginer, si on peut aujourd'hui le prédire, on dit
ouais,
ça en français,
prédire, ouais.
C'est, si on peut le prédire, ça veut dire que c'est un peu évident.
Mmh. Donc c'est trop facile.
C'est trop facile. Si on peut l'imaginer, ouais. Malgré notre ignorance ou malgré même les dogmes qui sont contre, ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir. Là.
Ouais. Donc ça, c'est la part aventurière un petit peu du chercheur, c'est-à-dire oser s'aventurer dans des contrées lointaines et jusqu'alors plutôt inexplorées quand même, non ?
Bah pour moi c'est la seule façon de le faire. Bah sinon ça devient trop boring, trop
ennuyeux.
Ennuyeux, ouais. C'est ça. Donc je peux pas. Ouais, pour moi c'est. Il y a pas une autre façon de le faire.
Ouais. Vous dites que vous avez vraiment été guidé par la curiosité dans vos recherches. Oui. C'est ça qui a été le moteur de votre travail.
Toujours.
Ouais.
Toujours. Donc pour moi il y a deux mots clés curiosité. Qui est peut-être normal pour un scientifique, et l'autre, c'est l'esthétique, la beauté.
Ah oui, aussi.
Ah bah oui. Ouais. Parce que finalement, on travaille pas sur tout, hein. On travaille, on choisit nos sujets, nos...
Elle est où la beauté dans un cerveau de mouche, Bassem Hassan? Parce que là, comme ça, j'ai du mal à imaginer, mais bon.
Ben oui, mais si vous tapez sur Google, par exemple, neurones d'un mouche ou d'un homme ou une femme, bien sûr, vous trouvez une pattern. Les neurones, c'est pour moi, c'est des cellules très très belles.
Ouais.
Et donc cette fascination de la beauté de la nature, de la biologie et surtout les cellules cérébrales d'un côté et la curiosité de savoir mais comment fonctionne ça, comment ça développe d'abord, comment ça se passe qu'une cellule qui commence hyper ronde, normale, devient une cellule assez sophistiquée qui est capable en fait de faire des choses comme par exemple nous faire parler aujourd'hui
et d'échanger.
En radio, c'est incroyable.
Ouais. Et les neurones d'une mouche ressemblent en tout point à ceux d'un humain?
Ben oui, absolument. Ouais,
c'est exactement la même chose.
Ben non, c'est bien sûr pas exactement la même chose, mais c'est essentiellement la même chose. C'est-à-dire que toutes les parties qui font un neurone au niveau structurel et fonctionnel sont identiques à travers presque tous les animaux. Donc, oui.
On va revenir évidemment à la mouche drosophile dans un instant. J'aimerais encore discuter un tout petit instant de votre parcours pour faire mieux connaissance avec vous. Vous avez fait une thèse en génétique moléculaire donc à l'Université de l'Ohio avant de faire votre post-doctorat au Texas. Mm-hmm. Et puis ensuite, vous êtes rentré en Europe. Vous avez fait l'Université de Leuven en Belgique où vous êtes toujours, l'Université libre de Berlin où vous travaillez encore, et puis l'Institut du cerveau de la moelle épinière depuis quelques temps donc à Paris. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de revenir en Europe alors que vous étiez aux États-Unis? D'habitude, les chercheurs font plutôt le contraire.
C'est vrai. C'était une question un peu complexe. C'était toujours partie familiale, comme ma famille et la famille de ma femme habitent au Liban. Donc, être un peu plus proche du Liban, parce qu'on est tous les deux d'origine libanaise. C'était aussi la question des enfants. Est-ce qu'on voulait que nos enfants expérimentent la vie des plusieurs cultures, plusieurs identités, etc. Voilà. Et finalement, bien sûr, question pratique de sous, quoi, des offres.
C'est étonnant, parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de sous aux États-Unis justement qu'en Europe pour travailler.
C'est vrai, mais à l'époque, j'ai reçu 2-3 offres assez importantes en Europe. Et finalement, on a fait le mélange de critères un peu comme ça et décidé d'accepter l'offre en Belgique à l'époque.
Et donc, vous travaillez sur les mêmes thématiques dans ces trois lieux, la Belgique, Berlin et Paris aujourd'hui?
Écoutez, c'est pas vraiment tout à fait comme ça. C'est en fait, je suis en train de fermer le labo en Belgique, donc c'est une année de transition. C'est-à-dire que à partir de 1er janvier 2017, le labo principal sera à Paris, à l'ICM. Donc aujourd'hui, je fais toujours le trajet entre Leuven et Paris, parce qu'il y a toujours mes collègues, mes jeunes postdocs qui travaillent là-bas. Mais c'est juste une année de transition. Berlin, c'est tout à fait autre chose. J'ai reçu, début de cette année, je suis devenu le Einstein Visiting Fellow à Berlin. Et c'est aussi un peu un award, un prix, qui vient aussi avec dessous pour faire la recherche. Et c'est un projet de collaboration avec un ami, un collègue, Robin Hiesinger. Et là, oui, on travaille sur le même sujet que ici, donc l'individualité, circuit neuronal, etc.
Avec les moyens dont vous disposez, quelle grande découverte vous aimeriez faire, Bassem Hassan, dans votre domaine, justement? Ce serait quoi pour vous le rêve absolu, là, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous essayez de comprendre?
Les inattendus, bien sûr. Comme j'ai dit déjà.
Donc on ne peut pas savoir ce que c'est?
Ben non, on peut imaginer, on peut rêver toujours. Alors. Donc pour moi, le rêve court terme sera de vraiment établir les liens entre la morphologie personnalisée des circuits d'un mouche et son ou sa comportement individuel inné. Donc établir ces liens au niveau de corrélation, c'est-à-dire si on fait l'anatomie, on regarde l'anatomie dans certains cerveaux, est-ce que on peut faire une prédiction sur comment ce mouche
va grandir, va évoluer.
Va se comporter. Va se comporter dans un certain test.
Ouais. Et on n'arrive pas à le faire encore aujourd'hui.
Je dirais qu'on est quand même proche de faire ça dans mon équipe, fingers crossed, comme on dit en anglais. Rêve un peu plus, un peu moins court terme, c'est établir une causalité, un lien causal. Donc, c'est-à-dire que qu'on peut montrer que c'est pas juste une corrélation entre anatomie et comportement, mais en fait que l'anatomie, la variation anatomique entre individus
influence directement
cause directement la variation comportementale dans ces individus-là.
Et ça, il faut plus de temps.
Long terme, c'est de montrer finalement que tout ça est une règle générale au lieu d'être une exception de notre circuit en particulier.
Bassem Hassan, l'invité de La Tête au Carré cet après-midi.
Dans un grand château noir, matin et soir, le grand 8. Je ne vois pas de suite, je ne vois pas d'été. De ces touches en ivoire, je te dédie cette fuite. Je veux me revenir, je veux te retrouver. Je voudrais tout te dire, je pourrais tout avouer. Je n'ai rien à cacher, je n'ai plus à me fuir. Lasse de me suffire, j'ai manqué de volonté. Je me retrouverai pour mieux te revenir. Pour la première fois, je m'ennuie, c'est insensé. Mais quoi de surprenant, pour la première fois, j'aime. Tout est fini, j'ai fait les ombres s'écarter. Je rêve d'une vie qui serait aussi la tienne. Dans le halo sans voix de cette chambre à coucher, je me défais de tout, je fais vœu de courage. Une photo de toi que je ne peux décoller. Comment me rassembler, comment tourner les pages. Une part de l'enfance que rien ne peut effacer, qui ressemble à la mienne et serait en partance. Une chaîne, une alliance, une blessure lointaine, une phrase oubliée qui me divise en deux. Il n'en vaut pas la peine. Dans un grand château noir, le grand. De suite, je ne vois pas d'été. De ces touches en ivoire, je te dédie cette fuite. Je veux me revenir, je veux te retrouver. Tu n'as plus à me fuir, tu n'as plus à te méfier. Je reviens d'une guerre entre moi et moi-même. Dépossédé de nous sur une terre endeuillée. Il est pourtant partout indiqué que l'on s'aime. Tous deux vivants, je dis la lumière éclatante. Notre amour dans la peau, je fais le vœu suprême. Tu es le seul temps, le seul qui m'enchante. Chacun de ces mots, entends-tu que je t'aime? Tu es le seul temps, le seul qui m'enchante.
Et c'est la voix de Messia avec le Grand 8.
6 pattes, 2 ailes et déjà au moins 3 prix Nobel. La drosophile, c'est la reine des labos, une véritable star des paillasses. Depuis le début du XXe siècle, elle est utilisée dans de nombreux domaines de recherche. En génétique, en immunologie et plus récemment dans l'étude du comportement. Dans ce laboratoire parisien, les chercheurs étudient son cerveau. Ils essaient de percer les secrets de sa mémoire.
Notre idée et celle de nos collègues qui utilisent la drosophile comme modèle d'étude est que l'on va mettre en évidence des mécanismes chez la drosophile qui vont s'avérer être vrais aussi chez les mammifères et chez l'homme en particulier.
La drosophile permet à cette équipe de comprendre les mécanismes fondamentaux de la mémoire. Ces recherches ont aussi des applications médicales. Elles permettent par exemple de mieux comprendre le développement précoce de la maladie d'Alzheimer. Nul doute qu'après ça, vous ne regarderez plus jamais les drosophiles de la même façon.
Voilà, la drosophile star des labos et la voix de Thomas Préa qui est directeur du laboratoire Plasticité du cerveau au CNRS et que vous connaissez bien d'ailleurs, Bassam Hassan.
Ah oui, salut Thomas.
Voilà, dans le domaine, dans le monde de la drosophile, on se fait des bons copains évidemment et vous travaillez donc sur le comportement, les traits de personnalité. Un mot quand même pour comprendre ce que vous faites, parce que s'intéresser à la drosophile soit, mais c'est pourquoi au fond, est-ce qu'on peut faire des parallèles avec l'humain ou c'est pas du tout l'objet pour vous parce que vous faites de la recherche fondamentale et que pour l'instant vous êtes concentré sur le cerveau des mouches?
Bah d'abord, je pense. Merci pour cette question. C'est très intéressant parce que, en fait, la frontière entre fondamental et appliqué est toujours un peu artificielle. D'abord. Deuxième chose, quand on parle de la recherche fondamentale, c'est pas pour dire qu'on ne s'intéresse pas à l'humaine. C'est-à-dire, on peut faire des recherches fondamentaux sur des questions qui concernent quand même les gens. Donc, appliquer et fondamental, c'est rien à voir avec modèle ou humain, d'abord. Il faut clarifier ça, à mon avis. Deuxième chose, bien sûr, ce qu'on essaye toujours de faire dans la recherche fondamentale, certainement dans mon labo, c'est trouver des règles générales, des principes, des concepts qui peuvent être appliqués pour comprendre tout ce qui est tout ce qui est lié au cerveau. Ça sera cerveau mouche, souris, singe ou humain. Hein? Et on sait très bien que ces règles généraux doivent être là, tout simplement parce qu'on est tous évolués des mêmes origines. Quoi. Donc finalement, si on peut montrer que le lien entre ce qu'on appelle le hasard développemental, la morphologie neuronale des circuits dans nos cerveaux et le comportement individualisé. Si on arrive à montrer que c'est une règle générale de comment le cerveau développe en général, c'est-à-dire presque certainement que c'est la même chose chez nous. Quoi.
Oui, parce qu'on a envie de vous dire, il y a des choses très intéressantes pour comprendre la psychologie humaine, tout simplement. C'est-à-dire comprendre le cerveau et voir comment ce cerveau, avec une sorte de part innée, déterminée à l'avance, nous influence dans notre comportement. Pour l'humain, c'est extrêmement passionnant quand même.
Ben oui, et pour nous, en fait, ce qu'on est en train d'étudier, de tester, c'est l'idée que... Ok, laisse-moi revenir sur ce sujet d'individualité. D'où vient notre individualité, pardon. Il y a certainement des différences génétiques entre nous. C'est-à-dire que notre séquence d'ADN est différente.
Pour chaque
individu. Ça, c'est clair. Pour chaque individu. Sauf les jumeaux. Jumeaux identiques. Deuxième chose, il y a nos expériences qui commencent très tôt. Et ces expériences sont différentes, et donc ça crée des mémoires, etc., des influences,
Des comportements,
finalement, des comportements différents entre nous. Et ça, ces deux-là sont très bien acceptés, on sait que c'est comme ça. Par contre, ce qu'on est en train d'étudier, c'est l'idée que, au-delà de la séquence de l'ADN, et indépendamment de l'expérience, il y a un certain hasard, un certain... randomness, vraiment hasard, dans les processus de développement. Parce que, tout simplement, les processus de développement, les processus moléculaires, les interactions entre molécules et cellules et tissus, etc., sont assez complexes que c'est impossible de le contrôler de manière absolument prédéterminée.
Donc une sorte de loterie, on pourrait dire quasiment, loterie un moléculaire.
Tout petit peu, loterie moléculaire cellulaire qui finalement fait que même avec les mêmes séquences, même avec les mêmes expériences, même ce qu'on appelle nous micro-environnement, c'est-à-dire élever les individus dans des environnements identiques, on trouve finalement qu'il y a des différences comportementales entre ces individus. Et nous, on a...
Ça, c'est lié au hasard? C'est lié à ce hasard que
on
vous décrivez ou pas?
À l'époque, on ne savait pas. Et ce qu'on a, tout le monde a appelé ça tout simplement ma variation biologique. Comme c'est un peu un truc de magie. Et pour moi, c'était toujours la question était toujours, mais d'où vient cette variation biologique qu'on accepte tous sans vraiment savoir d'où ça vient? Et ce qu'on a trouvé, c'est en fait, pendant le développement de cerveau, d'un mouche en tout cas, il y a des choses qui passent, il y a des variations anatomiques qui sont clairement liés au processus du hasard moléculaire, de cette loterie moléculaire. C'est un loterie confiné, donc il y a des limites limitées. C'est pas n'importe quoi peuvent passer. Et c'est limité justement par le ADN, mais l'ADN définit les limites permis de développement, mais entre ces limites, on a des distributions, des probabilités. C'est-à-dire, par exemple, un neurone peut connecter avec neurone A ou neurone B dans le même endroit. Et ça, c'est complètement, assez complètement dû au hasard. Mais si on multiplie maintenant ces choix possibles d'un neurone entre A et B par le chiffre de neurones d'un cerveau de mouches, qui est quand même 100 000 neurones dans le cerveau des mouches, des trillions de neurones dans notre cerveau, vous voyez directement que l'espace de probabilité devient assez énorme. Et nous, on est en train de chercher s'il y a un lien, en fait, entre ces variations innées, un peu dues au hasard, et le comportement individuel fixe. D'un mouche. Et il y a même, si vous voulez, on peut aller plus loin et dire que peut-être il y a des implications philosophiques, même éthiques, pour ce type de questions. Parce que si on n'est pas vraiment tout à fait prédéterminé, ni par notre ADN, ni par notre expérience, mais il y a toujours une façon de... imprédictibilité.
Par aléatoire, donc, dans tout ça?
Un peu, donc, c'est-à-dire que, voilà, on n'arrive jamais, finalement, à construire, à prédéfinir c'est quoi un individu.
Et c'est ce qui fait la singularité de chaque individu aussi.
Voilà. Voilà.
Et c'est ce que vous étudiez sur le cerveau de la mouche.
Exact.
Quand vous parlez de hasard, on pense à Darwin, quand même, on pense à l'évolution. C'est exactement ça, ce que vous décrivez, non?
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ce que je trouvais, moi, toujours fascinant dans ce discours de déterminisme génétique, qui était le dogme, qui est toujours un peu le dogme dans plusieurs domaines de la recherche biologique et médicale, c'est qu'on sait très bien que l'évolution, qui est la théorie fondateur de la biologie et même la médecine moderne, on accepte tous que ça vient du hasard et après sélection. Sauf que on a un jour décidé de croire que après la sélection de molécules d'ADN à travers l'évolution, cette molécule devient déterminative à ce qui va passer après. D'accord? Donc, t'as l'ADN qui peut muter par hasard, mais il y a certaines mutations qu'ils ont sélectionnées. Et là, c'est fixé, et c'est comme ça que l'individu devient individu, devient lui-même. Nous, on dit, mais peut-être le processus de développement mimique un peu, imite un peu le processus d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a, un peu du hasard moléculaire, où il y a certaines choses qui passent, qui sont après sélectionnées pour ou contre, et qui sont impossibles à prédéterminer d'avance. Voilà.
Bassem Hassan, pour le plaisir, David Cronenberg en 1986, et c'est la mouche.
Une mouche est entrée dans le télépod transmetteur avec moi la première fois quand j'étais seul. L'ordinateur a été ennuyé. Il ne devait pas y avoir deux systèmes génétiques séparés alors. Et il a décidé de nous fusionner tous les deux. Il nous a unis, moi et la mouche. Nous n'avions même pas été présentés avant. Ma téléportation est devenue un accouplement génétique. Et pas n'importe lequel, je ne suis plus Seth Brundle maintenant. Je suis le fruit des efforts de Brundle et d'une mouche.
Voilà, ça, c'est un petit clin d'œil hein, pour vous qui travaillez tous les jours entouré de mouches pour parler de cet accouplement génétique. Vous aimez la science-fiction. On pourrait imaginer un jour faire une sorte de chimère entre l'homme et la mouche.
Non, je pense
parce qu'on a beaucoup de points communs quand même. Hein.
oui, mais cette fusion physionomique, disons, ouais, c'est un peu, ça reste un peu
encore.
Science-fiction.
On en parlera peut-être dans 1000 ans, mais c'est un peu tôt là pour l'instant.
Oui, on verra quoi. Pas nous deux, en tout cas.
Ouais, on n'en reparlera pas, non pas ce micro, ça c'est sûr. Allez, Bassem Hassan, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et Twitter.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Qui fait très plaisir visiblement notre invité Bassem Hassan, Pink Floyd.
J'adore.
Avec Another Brick in the Wall.
La tête carrée. Sur France Inter.
Des questions pour vous, neurobiologiste, spécialiste des travaux sur la drosophile. La mouche ne voit-elle qu'en noir et blanc? C'est une question de Paul.
Non, elle voit certainement dans ultraviolet aussi. Mmh. Ils ont des récepteurs ultraviolets dans les yeux. Et il y a d'évidence qu'ils peuvent aussi voir en bleu et vert, pas en rouge.
Ouais.
C'est ça.
Bon, alors, le déplacement de la mouche, ça vous intéresse beaucoup aussi pour étudier ce dont on a parlé précédemment sur le comportement.
Tout à fait. C'est exactement le genre de comportement, de test comportemental inné qu'on utilise en fait. Ce que les mouches adorent, pour des raisons qu'on comprend pas vraiment.
Oui, elle adore quoi
trop,
la mouche
Le contraste. Donc noir sur blanc. Ah, pour eux, c'est super.
C'est vrai.
Donc, ce qu'on met tout simplement, c'est une ligne noire sur une papier blanche. Et la mouche va vers les lignes noires sur papier blanche.
D'accord. Bon, passionnant.
Oui. Il adore les... Donc, mais comme nous, en fait, ils ont capacité de fixer sur un objet.
Ouais. Hein?
Donc, et on appelle ça object fixation, fixation d'objet,
ouais. Hein,
tout simplement. On fait tout ça, hein. C'est un réflexe inné caractéristique de la système visuel de tous les animaux visuels.
Ouais.
Mais ce qu'on a trouvé en faisant ces comportements, ces études là, c'est que certaines mouches, chaque mouche a son propre paramètre d'aller vers un objet fixe qui est loin. Donc, il y a des mouches qui marchent directement, sans arrêt, ligne droite, etc. Hein. Il y a des mouches qui zigzaguent, il y a des mouches qui prennent toujours un peu à droite ou à gauche, un peu comme les électeurs. il y a des mouches qui posent trop, il y a des mouches qui sont plus vides de dos, d'autres. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est en fait, après une manip qui dure 15 minutes, d'enlever ces mouches, de laisser ces mouches en tranquillité toutes seules pour 2 jours et retester. Ce qu'on a trouvé, c'est toutes ces paramètres, presque tous ces paramètres, sont complètement individuels. C'est-à-dire que les mouches qui posent trop, qui marchent tout droit,
vont toujours refaire la même chose.
On a testé sur 3 semaines, pas plus.
Et elles répètent à chaque fois les mêmes.
Absolument.
Ouais. Le même individu répète la même action.
Exactement.
Ouais.
Et si on regarde à travers les cinquantaines de paramètres qu'on a mesurés, en fait, il y a aucun mouche qui est identique à l'autre,
malgré
le fait qu'on a essayé de minimaliser les différences génétiques entre ces mouches.
D'en faire des mouches très semblables en apparence. Ouais.
Et ils ont exactement les mêmes expériences de vie, etc.
Ouais.
De façon qu'on peut contrôler, finalement.
Alors, est-ce que ça illustre cette part de hasard dont vous parliez tout à l'heure?
Hasard non.
Qui, dans le cerveau, pourrait engendrer d'autres comportements ou pas?
Pas encore. Donc, avant ça, on a publié des études qui montrent qu'il y a deux hasards en développement, c'est-à-dire que les mouches qui ont presque même ADN et presque même expérience, de façon qu'on peut, en fait, contrôler, ont des variations anatomiques dans leur cerveau qui peuvent pas être expliquées simplement par les différences génétiques, ni expérientielles. Et là, on a trouvé des comportements individuels, et on est aujourd'hui en train de lier ces deux, corroler ces deux, en fait. C'est-à-dire de demander si les variations dues au hasard, les variations développementales anatomiques dues au hasard, expliquent les variations individuelles de ces caractères des personnalités des mouches.
Donc, question posée.
Question posée, les données aujourd'hui favorisent assez fortement la réponse oui, mais on n'est pas encore 100% sûr.
Ouais. Bassem Hassan, est-ce que justement puisqu'on parle de comportement, traits de personnalité, on imagine aussi troubles du comportement, ça c'est des questions aujourd'hui qui préoccupent beaucoup la société et qui concernent beaucoup de personnes, est-ce que ça pourrait servir justement à expliquer certaines pathologies humaines ou pas?
Je dirais que... comme un scientifique, je dois dire, on ne sait pas aujourd'hui, mais on peut imaginer, par exemple, que un parti de la différence des réponses. Prenons, par exemple, des cas des troubles psychologiques. En essayant de donner tout le monde, et en plus, imaginons des troubles psychologiques dus d'une mutation génétique déjà identifiée, présente dans certains pourcentages de population, qui est aujourd'hui le cas. Si on essaye, par exemple, de donner certains médicaments pour toute cette population qui ont un certain la dépression, la schizophrénie, n'importe quoi, dues d'une certaine mutation génétique, on sait très bien qu'ils vont pas répondre en même façon. On est heureux aujourd'hui si on trouve que 30-40% des patients répondent en fait au traitement.
Donc, difficile de faire un médicament global.
Donc, il y a toujours des variations individuelles. Voilà. Et on peut demander si une partie de ces variations est due en fait au hasard développemental de leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils ont un cerveau un peu différent l'un de l'autre à cause des choses qu'on ne peut pas prédire ou lire.
Donc ça complexifie drôlement les choses.
Ça complexifie les choses, mais c'est-à-dire qu'il faut chercher... il faut commencer à penser à ça dans la recherche de ces variations de réponses aux médicaments.
Ouais.
C'est complètement théorique aujourd'hui, mais il faut...
Mais c'est des pistes en tout cas qui sont lancées pour les années et les décennies à venir. Bassem Hassan, on va terminer avec de la science-fiction à nouveau. Steven Spielberg, Minority Report, c'était en 2002 pour une question posée justement sur notre cerveau.
Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de Pregrim.
Oui, voilà.
Je ne suis pas avec l'Association de Défense des Libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi.
Mais vont le faire.
La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les Précoq voient l'avenir et ne se trompent jamais.
Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal?
Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps.
Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver.
Jamais eu de fausses preuves irréfutables? Quelqu'un a l'intention de tuer son patron ou sa femme, mais il ne le fera jamais. Comment les précoques font-ils la différence?
Les précoques ne voient pas ce que vous avez l'intention de faire, juste ce que vous allez faire.
Voilà, intéressant les questions qu'ils ont posées dans cet extrait. On pourrait imaginer une police qui puisse arrêter des individus parce qu'ils auraient commis un acte dans le futur. Donc à ce titre, une nouvelle justice, parce qu'on comprend le cerveau autrement. On peut aller jusque-là aujourd'hui?
Écoutez, j'ai l'impression parfois en écoutant l'info avec tout ce qui se passe que peut-être on est un tout petit peu là déjà. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont arrêtés à cause de suspicions
de comportement
Voilà, donc... Mais laissons la politique un peu à part.
Revenons à la neurobiologie.
Très difficile à dire. Donc nous, les scientifiques, on est... pas dans le business de
la prédiction.
Prédiction de la future. C'est un business très, très dangereux. Mais j'espère comme en train d'individu, surtout, qu'on n'arrivera jamais à ce moment-là, que le hasard reste un principe fondateur de la biologie.
Parce que là, on est sur le contrôle total.
Exactement. De toute la biologie, compris... la biologie d'expérience, de changement de notre comportement au quotidien, et que finalement, il y a toujours les valeurs de respect de l'individualité et la liberté qui triomphent.
Oui, et justement ce qui fait la singularité d'un homme comme d'une mouche. Bassem Hassan.
Exactement, Mathieu Vidard.
Merci beaucoup d'être venu. On était ravis de vous accueillir cet après-midi dans la tête au carré à l'occasion, entre autres, de ce prix que vous avez reçu donc cette année extrêmement important et qui va vous permettre de faire beaucoup de recherches avec vos équipes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaire sensible, le thème.
L'affaire Bettencourt qui va de 2007 à 2015. Ça paraît très compliqué l'affaire Bettencourt, mais avec du recul, on joue un peu sur de velours avec l'affaire sensible, avec du recul on peut la rendre simple, intelligible. D'accord.
L'affaire Bettencourt pour les nuls, c'est ça en gros?
C'est un peu ça. Et notre invité, ce sera Fabrice Arfi de Mediapart, puisque comme souvent, Mediapart est à l'origine de certaines révélations sur cette affaire comme sur d'autres.
Eh bien, on se retrouve dans un instant.